de la mort du pape François, mais d'abord le sport avec Victor Missistrano. Bonjour Victor.
Bonjour Gaëtan, bonjour
pour
à tous.
Commencer direction la Côte d'Ivoire, un nouveau tournoi de tennis vient de débuter à Abidjan.
Un challenger ATP, c'est le second après celui de la semaine dernière. Il est à nouveau l'une des attractions de l'événement. Benoît Paire est certes descendu au-delà du 500e rang du classement mondial. L'ancien numéro 18 espère retrouver des sensations et engranger des points. Et si son niveau a dégringolé ces dernières années, le fantasque joueur français conserve sa popularité dans le monde du tennis. C'est ce qu'a pu vérifier Molamine Sissavané.
Lors de son match perdu au premier tournoi, la grande partie du public était favorable à Benoît Paire. Ce challenger est une reprise pour le Français de 35 ans après 7 semaines de blessures.
Je suis très content d'être ici en Côte d'Ivoire. C'est la première fois pour moi. J'avais besoin de retrouver un peu la compétition, essayer de prendre du plaisir. C'est ce qui s'est passé sur le premier tournoi. Maintenant, c'est à moi de faire mieux sur le deuxième, essayer d'aller plus loin dans le tournoi et pourquoi pas gagner pour reprendre des points ATP et remonter un peu au classement.
Son premier point au classement international, Miko Kwame vient de le décrocher dans le double grâce à son succès avec Benoît Paire comme coéquipier. Le numéro 3 ivoirien de 21 ans.
C'est quelqu'un que j'ai regardé toute mon enfance, qui a joué les grands chelems, tous les grands tournois. C'est carrément une idole pour moi. Peu importe son classement aujourd'hui, ça reste Benoît Paire. C'était une expérience inimaginable. Et en plus de gagner avec lui en double mon premier point, franchement, c'était, je pense, le plus beau jour de ma vie.
Marie-Emmanuelle Nanou, jeune abidjanaise férue de tennis depuis l'enfance, ne manque aucun jour du tournoi. Surtout pas les matchs de Benoît Paire qu'elle suit même à l'entraînement.
Ah, ça fait vraiment plaisir de le voir jouer. J'espère qu'il va gagner et se qualifier pour la suite. Le but, c'est de faire une pancarte pour ce mardi. Vous lui dites, ah, qu'il a les supporters ici. Voilà. Allez, Benoît.
Entrée en lice de Benoît Paire ce mardi face à Ricardas Berankis, finaliste malheureux du premier tournoi ce dimanche. Molamine Sissavané, Abidjan, RFI.
Au Niger maintenant, c'est le retour de la lutte traditionnelle ce mardi, coup d'envoi de la 13e édition de la Coupe du Président.
Ils sont 16 à participer et parmi eux, un grandissime favori, Issaka Issaka. À 35 ans, le Colosse vise un 8e titre, ce serait un record et il est bien sûr le favori selon le directeur technique national Adam Soumana qui annonce une compétition très relevée.
Nous allons nous retrouver avec des champions et nous pensons que les combats seront exceptionnels cette fois-ci au niveau du Maradi. Il y a de l'engouement autour de cette 13e édition, donc nous pensons que les combats seront rudes et que vraiment il y aura de l'ambiance. Issaka Issaka, il a toutes les chances pour retourner avec sa coupe. Il est en forme, c'est une sorte de revanche qu'il va reprendre cette fois-ci au niveau du Maradi, après sa défaite en finale à Adosso pour le sabre national.
Et cette compétition de lutte traditionnelle durera jusqu'à jeudi.
On passe au football, Victor. En Angleterre, la 33e journée de Premier League s'est terminée hier.
Avec la victoire de Nottingham Forest à Tottenham 2-1, après deux défaites, l'équipe surprise de la saison se relance et reprend la 3e place du championnat. Une Premier League que vont retrouver la saison prochaine Leeds et Burnley, les deux clubs qui sont assurés de finir premier ou deuxième de Championship, la deuxième division.
Et puis enfin en basket, le premier tour des playoffs de la NBA se poursuit.
Deux matchs cette nuit, les Detroit Pistons ont égalisé à une victoire partout contre les Knicks en s'imposant au Madison Square Garden de New York 100-94. Un partout aussi après le succès des Los Angeles Clippers à Denver 105-102.
C'était le journal des sports, merci Victor Missistrano, 7h46 à Paris. Et quelle date pour les funérailles du pape François? C'est aujourd'hui que le Vatican doit l'annoncer, au lendemain de la mort du souverain pontife à l'âge de 88 ans. Il a succombé à un AVC quelques semaines après une longue hospitalisation pour une nouvelle pneumonie. Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il ferait le déplacement pour ses obsèques. Hier soir, des milliers de fidèles sont venus déposer fleurs et bougies sur la place Saint-Pierre. Parmi les dernières réactions, on peut signaler celle du premier ministre japonais Shigeru Ishiba, qui s'est dit extrêmement attristé, y voyant une perte pour toute la communauté internationale. Et c'est vrai que les mois et mondial. On y revient largement dans nos journaux ce matin, mais aussi dans une édition spéciale avec Andréane Mellard à partir de 6h10 temps universel. On en parle également avec l'invité de la rédaction africaine dans un instant. Un petit mot des autres titres de l'actualité d'abord. 7 morts cette nuit à Gaza selon la défense civile locale. Elle parle de frappes aériennes israéliennes dans l'ouest de Gazaville, mais aussi à Ran Younes dans le sud de l'enclave. Le ministère américain de la justice annonce l'inculpation de 27 personnes accusées d'être liées au gang vénézuélien Tren de Aragua. Ils sont notamment soupçonnés de meurtre et trafic d'êtres humains. Et puis après un passage à Mayotte, le président français Emmanuel Macron est à La Réunion. Il va tenter d'apporter des réponses à l'épidémie de chikungunya qui fait rage dans l'île de l'océan Indien. Et il sera aussi question de la reconstruction après le passage du cyclone Garance fin février. Et un petit rappel de calendrier au lendemain de la mort du pape François. On attend donc la date de son inhumation, censée intervenir entre le 4e et le 6e jour après le décès d'un pape. Pour le début du conclave, c'est un peu après, entre 15 et 20 jours. Et c'est au cours de ce conclave qu'un nouveau pape sera élu par les 135 cardinaux âgés de moins de 80 ans, c'est la règle. Parmi eux, Monseigneur Dieudonné Zapalainga, archevêque de Bangui, cardinal depuis 2016, c'est-à-dire un an après la visite du pape François en Centrafrique. Il est l'invité de la rédaction africaine ce matin, interrogé par Christophe Boisbouvier.
Éminence, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre réaction après le décès du Saint-Père ?
Aujourd'hui, je suis peiné. En même temps aussi, j'exprime la gratitude au Dieu unique qui rappelle à lui son serviteur, l'infatigable missionnaire, celui qui a été proche des pauvres et qui a exprimé ce qu'on appelle la miséricorde.
Le pape n'est allé que 5 fois en Afrique, mais il a tenu à aller dans votre pays. Pourquoi ?
Parce que ce pays était présenté comme un pays où la religion divisait. On disait conflit entre musulmans et les chrétiens. Or, les leaders religieux, l'imam, le pasteur et moi-même, on s'était mis ensemble pour dire on met en place la plateforme pour travailler pour l'unité de ce pays. Et je crois que le pape a été attentif et quand nous l'avons rencontré à Rome avant sa venue en 2015, nous l'avons salué. Lui, en l'invitant tous les trois. Et il a dit, pour la première fois dans l'histoire, ce sont les leaders religieux qui m'invitent. Rien que pour cela, je ferai le déplacement.
Alors, en décembre 2023, il a ouvert la voie aux bénédictions des couples homosexuels. Comment vous avez réagi à ce moment-là ?
Mais je pense que l'Église d'Afrique a pris le chemin synodal et c'est ensemble, en communauté, pour ne pas dire en communion, que nous avons formulé la réponse qui a été soumise au Saint-Père. Pourquoi l'Église d'Afrique a exprimé une sensibilité qui est à part, de par sa culture, sa tradition et son anthropologie. Et nous voulons aussi garder l'anthropologie chrétienne.
Est-ce que vous avez craint un schisme à ce moment-là ?
Moi, je pense qu'il n'y avait pas un schisme à voir, puisque nous avons travaillé ensemble et les choses étaient claires. Quand j'étais à Rome, quand on a présenté ce message, le pape aussi a accueilli et il a laissé ce courant s'exprimer. Et je crois que cette ouverture est à féliciter de la part du Saint-Père, qui tient compte aussi de plusieurs sensibilités au cœur de cette Église universelle.
Oui, c'est ça. Le pape a fait une clarification. Hein ?
Oui, le pape a fait une clarification. Et nous avons pris l'option en disant nous ne bénissons pas les couples mariés. Ça, c'est notre option. Et le pape aussi a expliqué qu'est-ce qu'il entendait en parlant de bénédiction. Ce n'est pas un sacrement. Et nous, l'Église d'Afrique, nous avons voulu éviter la confusion dans la tête des gens en disant que nous ne bénissons pas, mais plutôt nous allons bénir les couples sacramentels.
Est-ce qu'il a représenté pour un certain nombre d'autorité catholique africaine, une forme de décadence morale européenne.
Je pense que l'Occident a son parcours, qu'il ne me revient pas de juger, et l'Afrique a son parcours, et nous devons chacun, dans notre parcours, converger vers l'unique, ça veut dire Jésus-Christ qui est le sauveur, mais il y a des dogmes qui nous guident et qui nous éclairent pour nous aider dans notre cheminement vers le salut.
Alors maintenant, évidemment, il va y avoir les obsèques où vous allez vous rendre, éminence, c'est dans quelques jours au Vatican, et puis ensuite il y aura le conclave pour élire son successeur, et ce sera votre premier conclave.
Ça sera mon premier conclave, oui.
Certains disent qu'il y a un courant conservateur de plus en plus influent au sein de l'Église catholique. Est-ce que vous pensez qu'il se manifestera lors de ce conclave ?
Moi, je ne suis pas souvent pour ces divisions courant conservateur, progressiste. Je vous ai dit tout à l'heure, dans l'Église, nous avons des sensibilités, des manières de penser et autres. Il ne faut pas chercher à les opposer. Bien au contraire, tout cela contribue à l'évangélisation, à l'annonce de l'unique sauveur, ça veut dire Jésus-Christ. Alors donc, moi je pense que c'est de dehors qu'on arrive à cataloguer. Vous l'avez vu, pendant le synode, au mois d'octobre, on avait pronostiqué beaucoup de choses. Mais une fois qu'on rentre et qu'on se laisse éclairer par l'Esprit Saint, les choses changent. Eh bien, l'Esprit guidera son Église.
Oui, mais tout de même, Monseigneur, les réformes du pape François ont provoqué une certaine hostilité dans les églises oui. d'Amérique du Nord et dans un certain nombre d'églises africaines. Est-ce que ces hostilités ne vont pas se manifester lors de l'élection de son successeur ?
J'espère que non. Si nous nous retrouvons, c'est pour choisir celui qui aura le destin de l'Église universelle. Ce n'est pas pour des intérêts régionaux, continentaux ou bien encore les intérêts personnels. On doit voir l'intérêt général, pour ne pas dire universel, c'est-à-dire l'intérêt de cette Église catholique.
Éminence, Monseigneur Dieudonné Zapalainga, je vous remercie.
L'archevêque de Bangui, invité de la rédaction africaine ce matin, il était interrogé par Christophe Boisbouvier. Prochain journal dans 7 minutes, mais d'abord la chronique des matières premières. Bonjour Marie-Pierre Olfan.
Bonjour.
Et on revient avec vous sur ces chiffres publiés ce week-end. Les chiffres douaniers chinois, ils montrent un effondrement des importations de certaines matières premières américaines au mois de mars. Les plus touchés, le blé et le gaz naturel liquéfié.
Oui, les chiffres montrent des achats de blé américain presque insignifiants au mois de mars, alors que la Chine achète d'ordinaire plus de 15% de son blé aux États-Unis. Même tendance pour le gaz naturel liquéfié, la Chine n'a quasiment rien acheté aux États-Unis le mois dernier. Ses commandes avaient déjà diminué en janvier et en février. Résultat, sur 3 mois, la Chine a vu ses importations de gaz américain chuter de 70%. En parallèle, elle a acheté plus de GNL au Qatar et en Indonésie.
Et est-ce qu'on sait, Marie-Pierre, si cette baisse est liée à la guerre commerciale?
Alors, ces chiffres sont ceux du mois de mars. Les droits de douane chinois pris en rétorsion aux taxes américaines n'étaient alors que de 10 à 15% sur les produits énergétiques et sur les produits agricoles. Pour voir si le phénomène s'amplifie et s'il y a une véritable corrélation entre les taxes et les volumes importés, il va falloir attendre, d'autant que les taxes chinoises sur les produits américains sont désormais supérieures à 100%. La question se pose en particulier pour le blé, car pour l'instant, le lien n'est pas évident et il n'y en a peut-être aucun, selon certains experts. La Chine a en effet beaucoup importé ces 3 dernières années et ses stocks sont suffisamment élevés pour qu'elle achète moins. Et de fait, la Chine achète aussi moins de blé à ses autres fournisseurs habituels. Il faudra aussi attendre les prochains mois pour savoir si la chute des importations de coton et de maïs au mois de mars s'inscrit dans la durée et reflète un véritable changement du circuit d'approvisionnement chinois.
Alors il y a quand même des exceptions, hein. La Chine continue de maintenir des niveaux d'importation élevés pour certaines matières premières.
Oui, c'est le cas du pétrole américain et du soja. Les importations chinoises d'oléagineux ont augmenté de 12% au mois de mars par rapport à l'année dernière. Elles reflètent, selon les analystes, des achats d'importateurs stressés en fin d'année 2024. Mais le soja brésilien devrait bientôt reprendre le dessus, la récolte sud-américaine étant disponible en Chine à partir du printemps.
Ah, merci Marie-Pierre Olfan, 5h55 en temps universel. Ça va faire bientôt un mois que la terre tremblait en Birmanie et donnait le coup de grâce à un pays déjà dévasté par une guerre civile. Alors forcément pas facile de venir en aide aux déplacés de ce conflit et ils sont nombreux. L'aide humanitaire est très difficile à acheminer dans certaines zones, notamment celles aux mains des groupes rebelles. Et dans ces zones, les habitants sont complètement livrés à eux-mêmes et pas facile de médiatiser leur situation. Les journalistes internationaux sont encore moins les bienvenus depuis le tremblement de terre. Pourtant, notre journaliste Esther Lebleu est parvenue à se rendre en Birmanie, à Mandalay d'abord, l'une des villes dévastées par les secousses, avant de rallier sa gang en zone rebelle. Là-bas, la population se mobilise pour aider les plus touchés. Ce sont des témoignages rares. Séisme en Birmanie, un peuple entre dévastation et résilience. Ce sera notre grand reportage du jour sur RFI. En voici un extrait.
En centre-ville de Mandalay, les séquelles visibles du tremblement de terre donnent une idée de la force du choc. Immeubles effondrés, enfoncés dans le sol. Au monastère Chemin, une quinzaine de moines bouddhistes s'affairent sur les ruines d'un dortoir écroulé. Les bras nus et tatoués sous leur toge marron, ils déblaient, déplacent des tas de gravats à l'aide d'une brouette. Une cinquantaine de jeunes moines, encore étudiants, sont morts dans les décombres. À quelques pas de là, les ruines du Sky Villa Condominium, un immeuble de 12 étages avec piscine, toit terrasse, un symbole de la modernisation récente de Mandalay. Une centaine de personnes y ont été ensevelies. Sur l'immense tas de ruines qui forment comme une colline, les équipes de secouristes birmans s'activent. Certains sont des professionnels, mais beaucoup sont de simples volontaires, amis, voisins du quartier. Ils travaillent sans équipement, se partagent quelques paires de gants et de bottes. Beaucoup sont en sandales dans les décombres. Il fait près de 40 degrés. Autour du site des recherches, l'odeur de décomposition des corps prend à la gorge. Les familles, équipées de masques chirurgicaux, attendent anxieusement. Une semaine après la catastrophe, il ne s'agit plus de retrouver des survivants, mais de récupérer le plus de corps possible avant l'arrêt des recherches. Un jeune homme, vêtu malgré la chaleur d'un costard noir de deuil, raconte.
Ma sœur était en train de nager dans la piscine quand le tremblement de terre est arrivé. Aujourd'hui, ils ont sorti 7 corps. À chaque fois, on y croit, mais ce n'est jamais elle. On va devoir vivre sans avoir récupéré son corps avec le doute.
Mais si la situation à Mandalay est difficile, la véritable tragédie se joue à quelques kilomètres de là, dans la ville secondaire de Sagaing, détruite à plus de 80%.
Nous n'avons ni eau ni électricité, c'est le plus urgent. Ensuite, nous avons besoin de financement. Il faut que l'aide arrive plus vite pour les villes et pour tous les camps de réfugiés durement touchés. Nous avons besoin d'aide, vraiment. Je vous en supplie, parlez de nous, rendez notre situation publique.
Un séisme en Birmanie, un peuple entre dévastation et résilience. Le grand reportage du jour, signé Esther Lebreu. Le Bleu, ce sera ce soir à 19h40 en temps universel. Merci d'être avec nous sur RFI. Un nouveau journal dans une minute pour revenir évidemment à nouveau sur la mort du pape François hier à l'âge de 88 ans. On y revient d'ailleurs longuement dans une édition spéciale juste après cette édition. Ce sera avec Andréane Mellard et ses invités pour parler notamment de l'héritage que laisse le pape François après ce pontificat. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée à l'écoute de la Radio du Monde.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Nom Matisse, prénom Marguerite. Elle est la fille aînée d'Henri Matisse et a grandi dans l'ombre du grand peintre, modèle, confidente, conseillère et ambassadrice de son œuvre, une femme de l'ombre, moderne et avant-gardiste, qu'une exposition au Musée d'Art Moderne, Matisse et Marguerite, remet en lumière.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar, du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.